J'ai le plaisir d'introduire cette deuxième session du thème numéro 1, forme en question, théorie, épistémologie et politique, et notamment les quatre intervenants. Alors là, il n'y en a que trois à la table, la quatrième se trouve dans la salle et nous rejoindra ensuite. Quatre intervenants, philosophes, biologistes, qui ont en commun, me semble-t-il, d'avoir identifié des éléments théoriques ou conceptuels chez des auteurs ou au sein de corpus disciplinaires, pour venir soutenir d'un appareil théorico-conceptuel centré sur la question de la forme, une pensée post-humaine ou non anthropocentrique de l'environnement, de l'habitat ou du cadre de vie, en la mettant en perspective d'approches pragmatiques et ou sensibles. Tout d'abord, Vincent Boisdeau, philosophe.
Beaubois.
Excusez-moi, je suis. Alors, ça, c'est toujours drôle. J'ai des éléments de dyslexie et donc c'est très systématique que j'inverse. Alors, faites attention pour vous. Excusez-moi. Donc, qui, lui, mobilise la théorie de la morphogénèse de Simondon pour penser la question du développement du design autour de la notion de cadre de vie. Bon, je vous présenterai mieux ensuite si vous le souhaitez, mais ça nous donne un premier élément d'approche. Ensuite, Claire Revol, qui, elle, mobilise la théorie de la ou la notion de rythme analyse chez Henri Lefebvre pour penser l'articulation des spatialités et des temporalités humaines et naturelles, individuelles et collectives, dans une pensée de l'environnement. Nous avons ensuite Ivona Janicka, excusez-moi si j'ai écorché votre nom, qui, elle, mobilise la théorie des sphères de Peter Sloterdijk pour penser, dans la perspective du New Materialism, la relation post-humaine ou non anthropocentrique à l'environnement. Et puis nous aurons Sylvie Poutot, qui se trouve ici, qui, elle, est biologiste, et qui mobilise la notion de fructification qu'elle rapproche de celle de gastrulation. Alors, ne m'en demandez pas plus, elle vous l'expliquera, pour penser la manière dont les plantes nous affectent et influencent nos interactions avec elles. Alors, je vais passer la parole tout d'abord à Vincent Boisdeau.
Beaubois.
Oh, excusez-moi. Ah ben, puis, alors là, quand on prend le pli, c'est fini. Donc, Baudouin, qui, philosophe, membre de l'équipe de recherche Histoire des arts et des représentations de l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, qui nous présente donc une intervention qui s'intitule « Morphogénèse du cadre de vie, des formes techniques aux formes de vie », et qui nous propose de comprendre les formes que nous habitons, ce qu'il appelle ce milieu techno-géographique, à partir de la théorie de la genèse des formes de Simondon, c'est-à-dire dans une perspective qui, nous, milieu de vie et habitants, dans une attention portée à la dimension processuelle des activités de construction de l'habitat ou de cadre de vie. Il met tout ça, il met cette théorie de la morphogénèse en perspective du développement du design à la fin des années 40, notamment autour de la notion de cadre de vie.
Merci. Merci déjà aux organisatrices et organisateurs pour tout ce travail. Alors, en fait, j'ai un peu réduit mon titre, c'est-à-dire que ça ne va pas être aussi ambitieux, puisque j'ai vu qu'en fait j'avais un quart d'heure. Donc, on va réduire un peu les choses et je vais préciser sur la question de l'environnement, puisque c'est un peu c'est le point de focal aujourd'hui et demain. Donc, à travers cette petite communication, je voudrais très simplement essayer de problématiser, justement, cette notion d'environnement et plus précisément la notion d'environnement artificiel, au sens où l'environnement qui serait conçu et produit par les différentes pratiques constructives. Alors, ce que j'appelle pratique constructive, ce serait le design, ce serait l'architecture, l'urbanisme, la pratique paysagiste. Et je les nomme constructives parce que, très simplement, on peut dire qu'elles cherchent à construire des choses, que ce soit des objets, des gestes, des espaces, des dispositifs. Donc, tout un environnement artificiel qui fonctionnerait comme un milieu de vie dans lequel on évolue, on essaie d'évoluer, on essaie d'habiter. Et j'essaie de problématiser cette notion d'environnement. C'est-à-dire, pour l'instant, si j'essaie de donner un sens minimal d'environnement, ça serait cette dimension d'une chose qui nous dépasse, qui n'est pas à l'échelle strictement humaine ou la dimension d'un objet, ce qui nous entoure, on pourrait dire, plus simplement. Donc j'essaie de problématiser cette notion d'environnement avec la question des pratiques constructives pour justement essayer d'apprendre quelque chose sur ces pratiques-là. Ce serait ça l'enjeu, en fait. À savoir, qu'est-ce que font littéralement ces pratiques, qu'est-ce qu'elles produisent en fait, concrètement? Que fait le design, l'architecture, l'urbanisme? Alors, il y a une réponse qui est assez banale, qui est assez classique à ces questions, qui consiste simplement à dire que ces pratiques ont pour but justement de produire et de mettre en forme notre environnement. C'est-à-dire qu'on aurait un lien de cause à effet où ces pratiques-là, leur but, leur visée, ça serait de construire notre environnement. C'est un énoncé assez banal, on peut en trouver des symptômes un peu partout. J'en ai trouvé un chez Ettore Sottsass, un designer italien, dans une interview qui date de 2001, où il nous dit, je le cite, « La tâche du designer ou de l'architecte est de donner forme à notre environnement artificiel. » Chose assez simple. Quelque part, on peut le reformuler d'une manière un peu plus radicale, pour voir ce que ça veut dire. Cet énoncé dirait en fait que le designer ou l'architecte, ce qu'il fait concrètement, ça ne serait pas d'abord de construire des objets, des immeubles, des artefacts, mais d'abord de construire un environnement. Or, il me semble qu'il y a deux présupposés dans ce type d'énoncé. Le premier sur la notion même d'environnement, et le deuxième sur la place et le sens que peuvent avoir les pratiques constructives. Donc, concernant la notion d'environnement, on a l'impression que l'environnement, c'est toujours un résultat. Ça serait une visée de ces pratiques, donc quelque chose qui arriverait en bout de course. Quelque part, les designers, les architectes fabriqueraient des objets, des bâtiments, des artefacts, donc toute une collection d'objets qui, au final, se constituerait comme environnement. Donc ce premier présupposé fait de l'environnement un objet, un but, une finalité des pratiques constructives. Donc l'environnement, ça serait, selon cet angle d'attaque-là, ça serait simplement une collection de choses au milieu desquelles vivent les humains, et quelque part, ce serait même le simple fait d'être habité par des humains qui ferait de cette collection de choses un environnement. Le deuxième présupposé, qui concerne cette fois les pratiques constructives, ça serait de les penser uniquement comme des activités finalisées, dont le seul but serait de construire quelque chose de concret, au final, d'avoir quelque chose de matériel. C'est-à-dire que la valeur du design ou de l'architecture ou de l'urbanisme ne se mesurerait qu'à la construction effective de dispositifs qui participeraient matériellement de notre environnement et de notre vie quotidienne. Alors, très rapidement, l'enjeu, ça va être de reprendre ces deux présupposés pour essayer de voir si on ne peut pas retourner, en fait, cet énoncé classique qui dirait que le design et l'architecture créent notre environnement. Donc, ce que je voudrais simplement essayer de faire passer, ou en tout cas l'idée à discuter, ce serait que, est-ce que l'environnement, c'est un résultat produit par simple accumulation d'objets, ou au contraire, est-ce qu'il n'est pas constitutif déjà de la création de ces objets et de la pragmatique de ces pratiques? Donc l'environnement, ça ne serait pas ce qu'on aurait à la fin, mais au contraire, ce qu'on aurait au début, en tant qu'il conditionne la conception de n'importe quelle chose. Donc ce que je voudrais montrer, quelque part, c'est la relation intrinsèque qui existe entre les pratiques constructives et ce qu'on appelle l'environnement, ou plutôt ce qui conviendrait peut-être d'appeler milieu. Donc je voudrais juste peut-être commencer par mettre l'accent sur cette différence entre environnement et milieu, puisque les deux termes ne connotent pas la même chose. Alors là, je me réfère justement à une certaine pensée française du XXe siècle, quand Guilhem, Friedman et Simondon, qu'on a évoqué. Qu'est-ce que la notion d'environnement connote? En fait, environnement connote une idée d'extériorité. Si je prends un exemple très simple pour expliquer ça, si je prends l'exemple de la forêt, par exemple, comme étant l'environnement d'un animal comme le loup. Si on parle d'environnement, quelque part, si on parle de la forêt comme environnement du loup, on présuppose que la forêt est extérieure au loup, qu'elle est une sorte d'espace extérieur dans lequel le loup peut rentrer ou qu'il peut sortir, et que le loup pourrait lui-même objectiver ou qu'il pourrait s'y rattacher comme un dehors. Quelque part, ça doit dire qu'on pourrait avoir une forêt sans loup et un loup sans forêt. Pas de problème. La notion de milieu, elle n'accentue pas sur cette dimension de séparation en fait, des choses. Elle fait l'économie de cette séparation pour insister, au contraire, sur l'aspect constitutif du milieu. Aspect constitutif du milieu sur l'être en question, par exemple sur le loup. Ce qui veut dire que la relation qui lie le loup à la forêt est constitutive de ce qu'est le loup, mais aussi de ce qu'est la forêt. C'est-à-dire qu'une forêt sans loup, ce n'est pas la même forêt que la forêt avec loup. Il faut entendre forêt ici, au sens d'écosystème. Donc le milieu, ce n'est pas quelque chose que je peux abstraire, mais c'est quelque chose qui est constitutif, au contraire, de mon existence, en tant que, aussi, en même temps, mon existence constitue ou influence ce milieu. Ce qui veut dire donc qu'un milieu ne préexiste pas à la relation qui le lie à un être, ce que, il me semble, la notion d'environnement ne rend pas forcément trop bien. Donc, la logique du milieu, quelque part, c'est une logique de la relation. la relation qu'il y a un être à son milieu est déjà productive, c'est-à-dire qu'elle produit corrélativement cet être et son milieu. Donc, à partir de cette petite distinction, il va être intéressant de voir ce qui se passe alors concrètement dans les pratiques constructives. Et donc concrètement, ça va signifier non pas simplement lire ou écouter ce que les designers disent de leur pratique, comme j'ai pu le faire rapidement en lisant un propos de Sotsas, mais plutôt de s'attacher, de ralentir, de se focaliser en fait sur ce qu'ils font. Quels sont les gestes de ces pratiques-là? S'intéresser à ce qu'ils font un peu dans la veine pragmatiste, que ce soit en sociologie ou en ethnologie. Donc, pour le reformuler autrement, il s'agirait en fait de s'intéresser plutôt au produire, à l'activité de produire, plutôt qu'au produit, au faire plutôt qu'au fait. Et donc, si on s'intéresse, si on prend cette direction d'analyse, on peut faire remarquer déjà que les matériaux de base pour concevoir quelque chose dans ces pratiques-là, c'est des matériaux hétérogènes. Dans le sens où concevoir quelque chose, donc là je dis « to design » au sens le plus large possible, c'est essayer de faire tenir ensemble des données qui sont déjà plurielles et hétérogènes. Je reprends un autre exemple simple, celui du design automobile, par exemple. C'est-à-dire qu'un projet de conception dans ce type de design cherche à faire tenir ensemble des composantes qui sont à la fois techniques, certes, mais aussi des composantes pratiques, économiques, plastiques, financières, symboliques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces différentes composantes-là, elles ne sont pas d'abord à l'échelle de l'objet, elles sont à une échelle qui dépasse la dimension de l'objet, puisqu'elles sont d'ordre économique, symbolique, culturel. Donc elles sont à une échelle qui serait dite environnementale, au sens de quelque chose qui dépasse la simple appréhension directe de l'objet, et en tant aussi qu'elles sont constituantes de cette chose à concevoir. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est par quels moyens ces composantes vont être mises en œuvre. Comment on fabrique, comment on construit en fait à partir de ces composantes-là? Ben, il me semble que ce qui fait justement la spécificité des pratiques constructives, telles qu'on commence à bien les connaître depuis plus d'un siècle maintenant, c'est non pas de créer directement des choses, mais pas dans ce rapport direct comme on pourrait le penser, comme on pourrait penser l'artisanat à une certaine époque par exemple, on n'est pas dans ce rapport direct de façonnage de la chose, mais on commence d'abord par créer des dispositifs pour concevoir des choses. Il me semble que c'est ça la spécificité de ces pratiques-là. C'est-à-dire que si je continue sur l'exemple du design automobile, tous les métiers qui sont liés à cette activité, alors que ce soit le styliste, l'ingénieur, le modeleur, le graphiste, le maquettiste, tous ces gens-là ne s'intéressent pas à la construction, à la production du véhicule final. Ce n'est pas ça qui attire directement leurs gestes et leur savoir-faire. Mais ça va être d'abord s'intéresser à configurer un dispositif qui est à la fois matériel et social, qui va comprendre des espaces et des temps particuliers, des savoir-faire et des machines particuliers, au sein duquel la genèse d'un véhicule va devenir possible. Donc ce qui se construit dans les agences de conception en général, c'est d'abord la construction, enfin c'est d'abord la configuration d'un dispositif qui est lui-même productif. Il est une mise en production parce qu'il génère une quantité de choses incroyables que sont les maquettes, les plans, les textures, les gestes, les procédures, les infographies, tout ce que vous voulez, tout ce qui se produit en fait dans ces espaces-temps particuliers. Et toutes ces choses agissent pas simplement comme des esquisses, mais elles agissent concrètement dans l'acte de concevoir, et elles agissent comme un milieu pour l'automobile à concevoir dans ce petit cas du design automobile. Si bien que si on essayait de qualifier, si on voulait donner un mot pour spécifier un peu ce type d'activité, ce type de pratique, on pourrait utiliser un terme de Félix Guattari, que Guattari dérive lui-même de la sémiotique de Peirce, on pourrait qualifier des pratiques constructives comme d'activités diagrammatiques. Alors je m'explique sur ce terme. Chez Guattari, le diagrammatique, c'est un certain régime, on va dire un certain régime d'existence, qui sert à caractériser l'état d'une chose qui est en transformation, qui est en genèse. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de stable, on est dans quelque chose qui serait dit métastable. Et alors je donne un exemple de Guattari, c'est l'exemple qu'il reprend en fait pour expliquer ce qu'est le diagrammatique, c'est le mode d'existence d'une particule au vu de la physique contemporaine. C'est-à-dire qu'une particule, je ne peux pas l'expérimenter de la même manière que Newton expérimentait une pomme. On n'a pas tout à fait le même objet. Et la particule ne peut exister en fait, non pas à partir d'une expérience directe, mais elle existe toujours à partir de ce que Guattari appelle un complexe théorico-expérimental. Or ce complexe, c'est assez simple, c'est l'ensemble des équations mathématiques, des accélérateurs de particules, du personnel scientifique, de toutes ces composantes-là, sans lesquelles la particule ne serait pas identifiable ni praticable. Donc la particule, elle n'existe au final qu'à travers ce diagramme. Donc c'est ça le diagramme en fait, c'est l'ensemble de ces composantes-là. Et Guattari nous dit même qu'elle est virtualisée par ce diagramme. Ben, du coup, de la même manière, ce qu'on pourrait appeler une chose en conception, alors une chose en conception, ça serait justement ce sur quoi travaillent les designers ou les architectes, c'est-à-dire donc ce sur quoi ils travaillent dans le temps de leur pratique, quelque chose qui n'est pas encore défini, puisque tout le travail, ça va être justement de définir cette chose-là. Ben, cette chose en conception, on peut dire qu'elle n'existe, elle aussi, d'abord que virtualisée par un dispositif diagrammatique qui est constitué de tous ces éléments, que sont les prototypes, les plans, les images, les procédures, les textes. La liste pourrait être infinie. Donc les pratiques constructives, pour concevoir quelque chose, ce qu'elles commencent à faire, en fait, c'est de configurer un milieu de conception à partir duquel la conception de quelque chose va devenir possible. Et donc, l'ensemble de ces choses, ces images, que sont les plans, les maquettes, agissent comme une sorte de réseau synchronique à partir duquel l'individuation de la chose en conception est rendue possible. Donc, c'est-à-dire que le travail de conception, il se fait vraiment dans la matérialité de ces images, que ce soit dans leur confrontation ou dans leur coexistence. Et donc, dès lors qu'on essaie de se mettre à la place du concepteur au moment de sa recherche. C'est un peu ça le but, c'est-à-dire non pas partir de la conception une fois qu'elle est terminée et achevée, mais voir qu'est-ce qui se passe en fait dans la chose en train de se faire. On voit que c'est là que la notion d'environnement, au sens de cette échelle qui dépasse le simple cadre individuel, apparaît. Et donc elle apparaît doublement, comme j'ai essayé de le montrer, d'une part depuis les composantes constituantes de tout projet, qui sont jamais des composantes à l'échelle de l'objet, mais toujours des échelles plus grandes, une échelle qu'on pourrait dire environnementale. Il s'agit des contraintes économiques, culturelles, symboliques. Et d'autre part, le deuxième point qui me paraît important, elles interviennent aussi dans la mise en œuvre pratique de ces composantes, qui ne vont pas passer par un façonnage direct de l'objet, encore une fois, comme on pouvait penser l'artisanat, par exemple, à la fin du XIXe siècle, chez Ruskin. Ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est plutôt la création d'un espace-temps particulier, d'un milieu particulier, un espace-temps intercalaire, on pourrait dire, qui viendrait dilater, qui viendrait ralentir, amplifier l'intervalle qu'il y aurait entre l'initiative de l'action de produire quelque chose et le moment où cette chose se retrouve effectivement parmi nous. Donc les pratiques constructives, elles se placent dans cet interstice-là, c'est-à-dire ce milieu qui est constitué, qui se configure, se trouve dans cet interstice-là et se manifeste donc par la création d'un milieu de conception, ce que j'appelle un milieu de conception, qui rend possible la chose à concevoir. Et donc pour conclure, en espérant avoir été clair, cette petite présentation a cherché simplement à problématiser les relations qui peuvent exister entre ces deux termes que sont le design au sens large et l'environnement, sachant que ces deux termes, en plus, c'est intéressant de voir qu'ils commencent à se généraliser dans la langue française au même moment, c'est-à-dire au tournant des années 60-70. Et j'ai simplement tenté de commenter cet énoncé assez classique qui dit que, je recite Sottsass, la tâche du designer ou de l'architecte est de donner forme à notre environnement artificiel, en accentuant le fait que donner forme, si on essaie de regarder de manière un peu, si on essaie de ralentir en fait cette notion-là, ça signifierait d'abord configurer un environnement, un milieu de conception qui est constitutif pour les pratiques constructives, en tant qu'il rend possible la conception de quelque chose. Donc l'environnement, ce que j'ai préféré appeler le milieu, c'est pas tant un résultat que la condition, le médium même à partir duquel une conception, une construction est rendue possible. Je vous remercie.
Je suis particulièrement sensible à cette approche relationnelle des pratiques, puisque je travaille moi-même beaucoup sur la question de la relationnalité. On n'entend pas. Passons la parole maintenant à Claire Revol, qui est elle-même philosophe, elle aussi philosophe, membre de l'Institut de recherche philosophique de Lyon, qui nous propose, peu de temps avant sa soutenance de thèse, je peux me permettre de le dire, hein, donc dans un état qui est celui qui caractérise l'approche de ce moment, qui vient à la fois clore et ouvrir, qui est tout à fait particulier et que nous avons tous connu. Parce que c'est la semaine prochaine, non, c'est ça?
C'est lundi.
Oui, voilà. Et qui nous propose une intervention, donc, l'ai-je dit, sur la rythme-analyse, ou avec la rythme-analyse d'Henri Lefebvre, qu'elle définit comme une science expérimentale des espaces et du temps, tel qu'il se donne dans l'expérience. Et elle propose que cette forme expérimentale enfin, elle propose d'interroger la question d'environnement avec cette forme expérimentale. L'intitulé de son intervention, puisqu'on a perdu le PowerPoint, est donc une forme d'utopie expérimentale, la rythme-analyse chez Henri Lefebvre.
Oui, donc merci également pour l'organisation de ce colloque. Donc moi aussi, j'ai été trop ambitieuse. J'ai voulu parler de tout un chapitre de ma thèse et c'est pas possible en 20 minutes. Donc je voulais faire à la fois une présentation rapide de ce qu'est la rythme-analyse chez Henri Lefebvre, parce que ce n'est pas forcément des textes qui sont très connus. C'est des textes dans lesquels Lefebvre imagine qu'on pourrait connaître les rythmes qui se répètent dans le temps et dans l'espace quotidien. Et finalement, on pourrait accéder à la manière dont se répètent et se différencient les phénomènes sociaux et urbains à partir de cette science des rythmes. Il imagine un dispositif pour pratiquer cette science des rythmes qui prendrait la forme d'une utopie expérimentale. Et c'est plutôt sur cette notion-là que je voudrais m'attarder, parce que c'est ma contribution à cette question de la création des formes environnementales, et plus particulièrement à partir de la sensibilité, à partir de l'espace et du temps tel qu'on le perçoit et on le vit. Il y a des continuités avec les interventions qui ont déjà eu lieu ce matin, notamment parce qu'on va retrouver les avant-gardes, une nouvelle fois, avec la notion d'utopie expérimentale, cette fois-ci plutôt des années 50, l'international situationniste. Je vais aussi me pencher sur cette action de produire l'environnement. Finalement, quel dispositif on peut mettre en place pour créer. Et il me semble que cette notion d'utopie expérimentale comme un procédé créateur peut être aussi mise en place comme une stratégie, dans une manière de mettre en place l'action dans l'aménagement. Donc je vais d'abord expliquer qu'est-ce que veut dire cette notion d'utopie expérimentale. C'est un terme que Lefebvre utilise au début des années 1960 pour parler des pratiques artistiques d'avant-garde de l'international situationniste, notamment, dont il est très proche à cette époque et au contact de laquelle il forge sa poétique urbaine. Et à ce moment-là, l'international situationniste, c'est pas le mouvement politique radical, enfin c'est déjà un mouvement politique radical, mais il met en place des pratiques expérimentales, ce qui ne sera plus le cas par la suite, notamment la psychogéographie, hein, cette activité de création d'une géographie affective de la ville par des déplacements, par la dérive, qui est décrite comme un comportement expérimental d'exploration par le déplacement et qui permet de saisir les changements d'ambiance dans les rues et de produire une cartographie différente de celle qui note simplement l'emplacement des bâtiments, mais qui montre les relations affectives que l'homme tisse avec son environnement. Et cette psychogéographie, ou science, première tentative de science des ambiances, elle devait nourrir la construction des situations nouvelles, d'où le terme de situationniste, et des architectes, comme l'architecte Constant, ont essayé de mettre en œuvre cette construction des situations. Et Lefebvre, il qualifie ces pratiques d'utopie vécue à titre expérimental. Donc il parle d'utopie vécue à titre expérimental en cherchant une conscience et une activité constructrice désaliénante par opposition aux structures aliénées et situations aliénantes qui pullulent dans la modernité. L'utopie expérimentale doit donc permettre de créer des formes qui ne dissocient pas l'architecture et l'urbanisme des styles de vie. Et en quoi cette notion d'utopie expérimentale peut contribuer à la question de la création des formes environnementales qui nous préoccupent ? La notion d'utopie, elle a toujours eu une place importante dans la notion de création architecturale, parce que l'utopie est une manière de se projeter dans des mondes construits. Mais ici, et également de penser d'autres sociétés, en fait, des sociétés idéales qui fonctionneraient sous d'autres formes que celles qu'on connaît. Et ici, l'utopie n'est pas employée dans le sens d'un récit fictionnel qui se passe dans un ailleurs qui n'existe pas. Hein, le utopos, c'est ce qui existe en aucun lieu. Et il n'est pas question non plus d'imaginer une société idéale qui serait complètement irréaliste et pas adaptée aux êtres humains réels. Hein, c'est ce qu'on reproche souvent à l'utopie, c'est de ne pas prendre en considération la réalité. Lefebvre dit par ailleurs que si on imaginait seulement une utopie des formes architecturales à partir de cette société idéale et irréelle, on obtiendrait une utopie abstraite, et c'est le cas de nombreuses utopies architecturales associées à la réflexion sur la société idéale, Fourier par exemple. Ce qui vient contrebalancer ce caractère irréaliste de l'utopie, c'est le terme d'expérimentation qui vient indiquer qu'il s'agit d'une pratique concrète. Par le protocole et le jeu, les participants se placent dans un espace-temps autre, mais qui reste celui de l'expérience quotidienne et qui en définit les modalités. Donc il ne s'agit pas de se borner à ce qui existe déjà, mais le processus doit aboutir à la production de formes concrètes qui transforment la vie par rapport à une problématique donnée, et qui est concrétisable parce qu'elle part des conditions de vie et de l'expérience à un moment donné. Troisième manière de définir cette utopie expérimentale, c'est qu'elle se place dans une posture critique par rapport à la réalité. Il y a cette notion d'aliénation de la vie quotidienne, et finalement l'utopie, c'est une manière d'envisager une société désaliénée. L'utopie expérimentale, hein, c'est la psychogéographie, par exemple, le fait de créer cette géographie affective de la ville, ça permettrait de trouver des ressources pour imaginer et construire des situations nouvelles dans la réalité. Donc, pour Lefebvre, l'utopie expérimentale doit permettre de construire un nouvel urbanisme et de transformer la ville. C'est le sens d'un article qu'il écrit en 1961, « Utopie expérimentale pour un nouvel urbanisme », et qui est écrit dans le contexte de la création des villes nouvelles et de l'utopie de la vie moderne. Pour lui, les villes nouvelles sont aussi une forme d'utopie, puisqu'il projette... Il projette avec des méthodes de l'imagination des modes de vie avec l'aide d'études scientifiques, hein, c'est le point de départ de l'utilisation de la sociologie pour alimenter les projets, et elle suppose une harmonie dans la vie sociale, mais qui est faite pour une société hiérarchisée dans laquelle il manque un aspect principal qui est le jeu. Et l'utopie expérimentale, en quelque sorte, c'est une alternative à ce modèle des villes nouvelles qui se met en place. Donc pour lui, l'utopie expérimentale permet l'exploration du possible humain avec l'aide de l'image et de l'imaginaire, accompagnée par une incessante critique et une incessante référence à la problématique donnée dans le réel. L'utopie expérimentale déborde l'usage habituel de l'hypothèse dans les sciences sociales. Donc, il ne s'agit pas d'appliquer une connaissance pour créer. Ça serait le schéma de la science appliquée ou de la déduction. Ni de tirer des principes généraux de l'expérience, d'induire des principes constructifs et à partir de l'expérience, mais d'imaginer des formes avec le contrôle de l'expérience, avec des techniques de variation imaginaire, pour imaginer des possibles à partir des virtualités et selon une problématique donnée. Donc Lefebvre appelle ce type de raisonnement la transduction, à côté de la déduction et de l'induction, qui sont d'autres types d'applications de principes pour la construction. Donc ce terme d'utopie expérimentale, que Lefebvre appliquait à la psychogéographie dans les années 60, finalement, son projet de rythme-analyse, dans les années 80, le reprend, puisqu'il s'agit d'expérimenter les rythmes, d'avoir cette clé d'entrée dans la réalité urbaine à partir de l'expérience sensible qui sont les rythmes. Cette activité de connaissance des rythmes, elle doit permettre d'envisager des possibles pour transformer le style de vie, le mode de vie et qui est lié à l'environnement. Donc la rythme-analyse, dans ce cadre, on peut la comprendre comme un renouveau de cette ambition de l'utopie expérimentale. Mais je n'ai pas eu le temps de vraiment expliquer tous ces textes sur la rythme-analyse. En tout cas, il y a bien cette dimension d'expérimentation et de création qui est toujours liée. Par exemple, il envisage un rythme analyste poète. Ça serait celui qui expérimente les rythmes et qui crée à partir des rythmes. Bien sûr, chez Lefebvre, l'utopie qui est derrière, qui est l'horizon de cette activité expérimentale, ça serait une sorte d'architecture de la jouissance. L'idée qu'on pourrait permettre de créer un espace approprié, un habité collectif. Donc, en quoi cette notion d'utopie expérimentale, elle peut nous aider aujourd'hui à penser la question de la forme environnementale, avec l'idée que l'utopie expérimentale pourrait être mobilisée pour produire un environnement ordinaire. Ici, je n'utilise pas le terme de forme dans le sens d'un contenu, mais plutôt dans le sens d'un processus, puisqu'ici, la notion d'utopie expérimentale, elle induit une forme de l'action plutôt qu'une forme sur lequel on va intervenir. En tout cas, Lefebvre nous permet d'envisager une articulation entre des pratiques expérimentales artistiques développées par les avant-gardes du XXe siècle et l'aménagement, dont il a par ailleurs fait la critique des pratiques. Donc c'est toute la pensée de Lefebvre sur la critique de l'aménagement urbain. Et de ce point de vue, l'utopie expérimentale est une sorte de réponse, la sorte de réponse lefebvrienne à cette question de la création de formes autres, en fait. Ce que je trouve intéressant dans cette notion, c'est qu'elle permet d'interroger les pratiques d'aménagement et d'imaginer d'autres possibilités au-delà de la seule recherche appliquée, c'est-à-dire de la notion de pratique comme application d'une idée, puisque la meilleure théorie, si on pense à sa concrétisation comme une application, peut perdre en sens, si on pense par exemple au référentiel de qualité ou la notion de qualité urbaine, on voit bien qu'une idée, si elle est appliquée avec ce modèle-là, a tendance à produire des effets pas forcément bon. Donc cette notion d'utopie expérimentale, elle aide à montrer que la pratique n'est pas l'application d'une théorie et de remettre en question la distinction entre théorie et pratique et de s'inscrire d'emblée dans un processus pratique, en fait. L'intérêt de l'utopie expérimentale, c'est de donner des outils pour réaliser une projection des possibles et d'envisager le travail de l'imaginaire, puisqu'il y a un rapport entre l'utopie et l'imagination. On peut toutefois reprocher à cette idée, à cette démarche, de ne pas proposer des procédures précises, de ne pas fournir des réponses clés en main. Mais on peut aussi reprocher à l'utopie expérimentale de s'attacher plus aux réalités possibles qu'aux possibilités réelles. Il faudrait poursuivre cette interrogation par un panel de pratiques effectives qui questionne l'articulation entre la recherche urbaine et ses applications et entre les différents acteurs de la production de la ville pour voir comment elle pourrait réagir sur la manière de mettre en pratique leurs procédures d'aménagement. Voilà. Merci.
Merci pour cet exposé autour de la rythme-analyse, qui est un texte que j'ai fréquenté à un moment que j'ai beaucoup aimé. Je reste avec une petite interrogation, mais qui sera peut-être l'objet de questions. Vous aviez proposé quelque chose sur le rythme comme forme qui règle l'utopie expérimentale ou la dimension expérimentale de l'utopie pour ce que vous avez appelé une architecture de la jouissance à partir du jeu. Et voilà, sur cette question du rythme, peut-être qu'on pourra revenir parce qu'elle me semble un peu en retrait dans votre exposé. Troisième intervenante, Ivona Janicka, qui est philosophe au Forschungsinstitut für Philosophie de Hannover, en Allemagne. Vous allez nous faire une présentation en anglais, qui s'intitule Atmospheres and Air Conditions, What It Means to Consider Air from a Philosophical Perspective.
Merci.
Alors, je vais juste présenter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de la mobilisation de la théorie des sphères de Sloterdijk pour penser, dans la perspective du New Materialism, la relation que vous appelez post-humaine ou non-anthropocentrique à l'environnement. Elle s'intéressera tout particulièrement ici aux notions de co-subjectivité et de traces. Et se proposera de développer une attention toute particulière à la question de l'air et de l'atmosphère.
Oui, merci. So maybe I'll swap to English. Yes. In the last 15 to 20 years, there has been a radical shift in some strands of contemporary philosophy towards reconceptualizing our relationship to the outside world. The term new materialism or neo-materialism has been coined to express this shift in the focus of philosophy to non-human factors. Its aim has been to rewrite thinking as a whole and reorient all old philosophical ideas towards this new direction. Rosie Bradotti, Manuel Delanda, Karen Barrett, and Janet Bennett, to name a few, are some of the prominent contemporary thinkers who problematize the centrality of human beings in Western thought. They try to construct a new post-human tradition that focuses on matter. In contemporary philosophy, there is a thinker whose philosophical project so far has not been considered sufficiently by Anglophone academics, and whose work has the potential to be productive for advancing new materialist thinking. Peter Sloterdijk and his trilogy Sphere, can be particularly productive in terms of thinking about the environment. This is made possible by his theoretical point of departure, but allows him to frame the questions of the subject and her relation to the surrounding world, Umwelt, to objects, technological entities, environment and animals, in a new and thought-provoking way. In this paper, I will present Sloterdijk's ideas on co-subjectivity and trace the potential of his prenatal point of departure for conceptualizing non-anthropocentric frameworks, with a particular focus on the question of air. I argue that even though Sloterdijk is not a self-proclaimed neo-materialist, his ideas can be useful for thinking in a neo-materialist way about the environment. For him, human beings cannot be thought beyond their coexistence with the environment and the immunity provided by technology. This image of a human as inherently fragile and dependent being implicitly argues against a conceptualization of a subject of classical liberal political theories, a human who is self-sufficient and asocial. In order to understand how Sloterdijk's philosophy can prove to be valuable for constructing non-anthropocentric frameworks, it is useful to consider two things. First, how Sloterdijk conceptualizes human beings, and second, what his point of departure is for the conceptualizing of human beings. Sloterdijk argues against psychoanalysis and its focus on the visual aspect of a human's development. He tries to propose a theory of psychoacoustics. His point of departure is one interior to the habitual Freudian conceptualization of a human being. Sloterdijk focuses on the time before the birth, the 9 months after conception, where a human being begins to exist only in and through a relationship with another human being, that is, the mother. Because his temporal point of departure is interior to the one in psychoanalysis, this implicates a whole range of consequences for his system. His initial assumption is that human beings start as a coexistence rather than a metaphysical autonomous one. Being a pair, Paarsein, he claims, precedes all encounters. It always takes precedence over the two single units which it seems to be put together. Human space is from the beginning bipolar, and it is co-subjectivity that is the basis for subjectivity. Therefore, being always is primarily being with, and there can be no I without us. It is therefore only through being in a pair and the act of habitation that the subject comes into existence and continues existing. This starts with inhabiting a mother's body and continues in inhabiting close interiors like apartments and ends with a tradition of putting the diseased into coffins. From this perspective, individualism and loneliness come chronologically after being with. Fetus and its partner, placenta, are united by a bipolar intimacy, the first solidarity. The primary pair floats in an atmospheric biunity, mutual relationality, and intertwined freedom from which neither of the primary partners can be removed without cancelling the total relationship. Sloterdijk calls this relationship between the fetus and the amniotic, in the mother, no object relation. So it's an object with an object as a one word. A term that he borrows from the work of another German scholar, Thomas Macho. No object relation, which is perceptible for an individual if it is denied or terminated. As long as the fetus is living inside the mother, it floats in a non-duality and does not realize it is a part of someone else, that is, that it is in a relation with a mother. Its nature is a closeness relationship, which is erased as a relationship because there is no subject-object relation, but rather an un-relationship. It is one of the points of critique that Sloterdijk makes towards psychoanalysis when he claims that it is a mistake to describe the early mother-child relationship in terms of object relationships. To be precise, Sloterdijk does not negate the existence of an object-subject relationship, but rather he claims that what makes us into a subject is a part that is undistinguishable from us. It is a no part, something without which we are incomplete or have problem existing, but which undoes us if it is taken away. Solidarity, kind of a creaky word from the 19th century, is often used to describe this connecting force between people, groups, and nations, even though it does not fully account for the strong reason for being together. Once the child is born, the newborn's first partner is the outside world, before it comes into contact once again with the mother. It is the air that it breathes, which replaces the lost amniotic fluid as the successive element. For the child, extra maternal being in the world, first and last of all, means being in the air and participating without struggles in the wealth of this medium. As a medium, air cannot be described in object terms, and therefore, together with atmosphere, it is in an object relation to humans. However, once air is denied to human, it moves into an object relationship with human. No object is then the unabandonable, intimate something without whose presence and resonance the subject cannot be complete. This something can be things, media, or people that fulfill the function of an intimate augmenter for subjects. An object is an entity that cannot be captured by the available partage, to use Jacques Vancier's word. However, without it, a given entity cannot exist. What Sloterdijk proposes is that this unrecognized entity is connected with us through solidarity. And from Sloterdijk's perspective, solidarity is the prime relationship between a human being and the surrounding world and the environment. It is because we are in an object relation with the air after birth that this key medium and what he calls the question of air conditioning is of particular interest and importance to Sloterdijk. With the growing air pollution, our connection to air is being transformed from an object relation into object-subject relation with dangerous consequences for ourselves. For Sloterdijk, the unity of humankind cannot be diagnosed anymore through common physis or nature. It has to be considered through a common location, Lage. This, in turn, has to be considered also ecologically, including the medium of air. We are surrounded by the environment. We are placed in an atmosphere with which we have a symbiotic relationship. We cannot live without air or without water. That is why in thinking about philosophy and politics, we should also consider options that exceed both the singleness of a human being and the category of the human. And I think this is possible with Sloterdijk. I wish to argue that philosophy needs to include the environment into its conceptualization of a human being so that the environment could be considered as inextricable to humans. In order to bring philosophy closer to the question of the environment and make it useful for neo-materialists, posthumanists and eco-philosophers in the effort to construct non-anthropocentric frameworks, one needs to overcome the individual human being as the point of departure in philosophy. Otherwise, one keeps returning to the old binaries, the subject and the other, the subject and the object, the individual versus the collective, which always leads back to the singleness of the subject. That is why you would need to leave behind the individual-centered philosophical frameworks and start thinking in terms of a dyad, or better still, a polyad, as the philosophical point of departure. And Sloterdijk's theology makes this possible. Sloterdijk offers a way to change the way we think about humans and the sociality, the place on this planet, and the relationship to the environment and other inhabitants of Earth. Sloterdijk, in his conceptualization of a human being, shifts the focus from humans to non-humans. He includes the environment, Umwelt, in the very makeup of a human being. The singleness, exception, and exceptionality of a human being or his human subject in the world would then be an accident rather than a necessity. And our an object relation to the outside world to the air we breathe, to the environment that surrounds us and the technology we depend on would be the point from which we start thinking about humans and politics. Thank you.
Maybe we may discuss the prototype knowledge of psychoanalysis, and notably the development of transitionality and relationality in psychoanalysis, or from the point of view of relationality, because there is a thinking of relationality which is outside Klein's way of thinking, which is very much object relation. For instance, Winnicott's strands or Anzieux in France, and they are very different, and they do include what Sloterdijk is talking about, which is this relationality and this co subjectivity, as you may put it. Anyway, but again, this was a lecture focusing on relationality and how it can be used to understand new ways of thinking environment.
Donc c'est encore une fois une intervention qui tourne autour de la question de la relationnalité, me semble-t-il, et qui la pose avec, on l'a vu, différentes approches théoriques et conceptuelles et différents corpus qui la proposent comme une manière contemporaine de penser la question de l'environnement et des formes environnementales. Donc je vais... Ah ben voilà, vous étiez là, vous voyez. Je vais vous laisser ma place. Sylvie Poutot, donc biologiste et esthéticienne à l'INRA. À Versailles, Grignon. Alors, je n'ai pas compris, vous faites votre intervention en français ou en anglais ? En français, d'accord, puisqu'elle était proposée en anglais. Éthicienne, pardon. Alors, excusez-moi. Donc, alors, cette proposition qui est extrêmement séduisante, enfin, qui m'a paru extrêmement séduisante et par ailleurs complètement hétérogène à tout ce que je connais et assez éloignée de ce que je peux, enfin de mon imaginaire scientifique, on va dire ça comme ça, ou de mon univers scientifique. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt que je vais vous écouter sur cette question du développement spécifique des plantes que vous avez appelé la fructification et qui est un concept que vous développez à partir de celui de, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai oublié gastrulation, merci. Et qui, pour vous, est un concept qui permet de décrire ce mouvement de développement interne des plantes dont vous faites le processus ou le résultat de forme qui permet de penser la manière dont les plantes nous affectent et de penser l'interaction qu'on a avec elles. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour votre présentation et pour les organisateurs du colloque. Oui, donc les plantes ça représente une forme d'existence qui nous est extrêmement familière, donc, que nous rencontrons toujours. Et du point de vue de l'esthétique et des formes, je pense qu'on a écrit et dit énormément de choses. Mais la façon dont je vais l'aborder est peut-être un petit peu différente aujourd'hui. Et la raison est que, d'une part, je suis effectivement biologiste, et puis j'essaie d'aborder une question un petit peu épineuse, qui est celle de comment peut-on développer une éthique pour les plantes. Alors, c'est une question qui souvent fait sourire. Et donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui était un point, finalement, d'ancrage sur des connaissances très basiques de biologie, et qui est consisté non pas à essayer de tirer la plante du côté de l'animal et de l'humain, mais plutôt au contraire de montrer qu'il y avait une différence positive, une originalité d'existence végétale et qui méritait une attention. Et cette originalité qui fondamentale est pour moi le fait que les plantes sont des entités ouvertes, qu'elles ne se replient pas sur elles-mêmes et qu'elles ne se centrent pas sur un milieu autonome. À la différence de l'animal, qui très tôt, au cours de son développement embryogénétique, va accomplir un geste qui s'appelle donc la gastrulation, qui vous est illustré ici à gauche, et qui consiste à dans un mouvement de creusement vers l'intérieur qui va constituer un espace intérieur. Donc c'est un mouvement actif, les cellules sont mobiles, elles vont glisser, coulisser vers l'intérieur, créer donc progressivement un tube qui devient le tractus digestif. Et ce faisant, l'animal se scinde en deux, il se coupe. Il se coupe de l'extérieur, il est maintenant un dedans, qui lui confère une autonomie, mais aussi une finitude, et il a un extérieur qui fait que maintenant il est séparé. Le végétal, lui, ne fait jamais ce geste. Il va donc rester toujours ouvert, ce qui lui donne potentiellement, évidemment, potentiellement, une infinitude et une capacité de se développer de manière embryogénétique indéfiniment. Alors on peut le résumer avec cette expression de vivre à N-1 qu'avait utilisé Deleuze et Guattari pour qualifier le rhizome, parce que ça correspond très bien, effectivement, on n'atteint jamais un achèvement complet. Alors on peut vouloir essayer de le représenter de manière synthétique sous une forme graphique. On peut dire que là, si on regarde à gauche la représentation, une figure qui finalement correspond assez bien à ce que la représentation de l'espace nous a habitués à concevoir, c'est-à-dire un espace qui s'organise autour d'un point central, qui est donc la perspective géométrique avec son point de fuite. Donc là, on est assez confortable, on sait comment les choses se passent d'une certaine façon. Et puis à droite, on a cet espace que je rapproche de l'espace du végétal, qui est un espace qui nous confronte, qui est intéressant, mais qui nous dit qu'il se passe quelque chose peut-être ailleurs, un espace qui est peut-être plus vaste. Est-ce qu'il a un centre? On ne sait pas. Est-ce qu'il en a plusieurs ou est-ce qu'il n'en a pas? Alors, ce que je veux dire déjà par ce premier aspect, c'est que simplement d'un point de vue purement, disons, topologique, on voit qu'on est confronté à des formes spatiales qui sont complètement différentes et qui sont imbriquées, en fait, hein, puisqu'on les côtoie de manière tout à fait ordinaire. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de topologie et de découpage de formes dans l'espace, mais ces formes sont des formes en action, ce sont des formes dynamiques, ce sont des formes qui sont créées par des forces formatrices, des forces de la physique. Alors les physiciens s'intéressent aujourd'hui à la genèse des formes biologiques et à un certain nombre d'études. Alors une grande caractéristique dans le cas des animaux, c'est que les forces formatrices mettent en jeu des déplacements cellulaires. Les cellules sont mobiles. Dans le cas des végétaux, les cellules ne sont pas du tout mobiles et tout se passe par des expansions cellulaires. Alors, du point de vue de l'hydrodynamique, c'est complètement différent. Les champs de force que ça suppose sont différents, les caractéristiques sont différentes. Et si on regarde la mise en place d'un embryon de quadrupède, de tétrapode, on peut constater qu'en fait, on peut décrire cette formation par un champ de force qui implique des forces concentriques. Des forces concentriques qui vont créer des vortex et qui vont aboutir à la formation des membres. Dans le cas du végétal, il n'y a pas de force concentrique, du moins dans les caractéristiques générales de croissance et d'organisation. C'est un champ de force radial, et qui donc sont des forces plutôt centrifuges. Donc on est effectivement, on peut dire qu'il y a une incommensurabilité, puisqu'on est vraiment, on a affaire à des forces formatrices qui sont complètement différentes. Alors, ce qui est intéressant avec une forme d'existence qui est ouverte, c'est qu'elle nous montre des choses qui finalement sont beaucoup plus imbriquées et dissimulées chez l'animal, pour faire la comparaison toujours avec d'autres formes vivantes. D'une part, le végétal nous expose, à trois ordres dimensionnels, unidimensionnel, bidimensionnel, tridimensionnel. Alors, l'unidimensionnel, il est caractérisé par la polarité axiale qui est fondamentale dans le monde végétal, donc une polarité qui s'établit entre la Terre et le Soleil, hein, donc un géotropisme et un héliotropisme. Et d'autre part, une bidimensionnalité qui est manifeste à tous les niveaux, puisque le végétal manifeste, se produit énormément de surfaces qui ne sont que des surfaces, qui sont laminaires, planes. Alors, elles ne sont pas complètement planes, on sait qu'elles vont être plus ou moins gaufrées, ondulées, etc. Et ça, c'est parce qu'il y a un troisième principe, un principe d'inscription dans l'espace tridimensionnel. Il y a chez le végétal, comme chez l'animal, donc, mais très différemment de chez l'animal, il y a un principe aussi de retour sur soi. Et ce retour sur soi va permettre donc une expression dans un espace tridimensionnel, donc qui va être soit des courbures, des torsions, etc. Alors ce principe, on peut le résumer comme étant un principe spiral, qui ne suppose pas forcément la formation de spirale au plan formel, mais qui est, disons, une tendance spirale. Alors, vous avez ici une illustration du cas le plus commun et fréquemment observé. C'est l'organisation des feuilles autour d'une tige qui vont suivre une hélice. Alors, bon, c'est pas un motif qu'on retrouve chez toutes les plantes, mais il est assez commun. Et ce que je voulais montrer ici, c'est, habituellement, donc on a des structures discrètes qui vont se former, mais dans certains cas, il y a des anomalies. Alors, les anomalies, en biologie, c'est très intéressant parce que ça peut nous révéler des principes qui sont en cause. Et vous avez ici un exemple où, finalement, la continuité matérielle, elle est maintenue. C'est-à-dire que cette spirale, elle est vraiment matérialisée, elle apparaît visuellement. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que quand la plante s'engage vers la reproduction, la phase reproductive, elle va produire des fleurs, elle va produire des fruits, cette tendance à avoir une condensation de la spirale, créer une sorte de vortex, va être beaucoup plus manifeste. Et on peut avoir des structures qui vont être tubulaires au niveau des fleurs, par exemple, hein, et qui va jusqu'à des formes qui vont être fermées avec une sorte de monde intérieur, dans le cas des fruits. Alors c'est une sorte de monde intérieur, c'est un pseudo-monde intérieur, parce que ça ne va pas se construire, comme chez l'animal, par un repliement vers l'intérieur, mais c'est simplement des clapets qui vont... Donc ces parties laminaires, ces surfaces qui vont se coller entre elles. Et d'ailleurs, le fruit ne va pas avoir une autonomie. Alors au-delà, se développent des graines qui vont échapper un petit peu à cet univers dimensionnel. On peut dire qu'on passe par un état adimensionnel, mais là, je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans cette description. Donc lorsqu'on atteint, lorsque le principe spiral aboutit à la formation de ces structures qu'on appelle les fruits, notamment, on peut dire que ce principe devient un principe de fructification. Alors, la fructification, ça veut dire que donc on va former des structures qui vont être, qui ont un pseudo-intérieur, qui sont plus ou moins renflées, élargies, arrondies. Bon, vous avez tout un ensemble d'exemples ici. Qui ne sont pas seulement ces formes arrondies, etc. On va voir aussi qu'elles ont des couleurs, parce que autrement, le monde végétal est essentiellement vert. Donc, on va avoir beaucoup de couleurs, des saveurs, des odeurs, des choses qui nous rapprochent du monde animal. Donc là, le végétal est vraiment très proche de l'animal. Alors, ce que j'entends par le principe de fructification, ça ne concerne pas seulement les fruits au sens botanique, mais toute structure de la plante qui va avoir cette tendance à former des structures qui tridimensionnelles avec plus ou moins arrondies, plus ou moins renflées, et avec des couleurs éventuellement, donc qui peuvent être souterraines, hein, qui peuvent être des feuilles, etc. Alors ça me conduit maintenant à effectivement ce principe de fructification qui nous rapproche du monde animal et du monde humain. Ça donc m'amène à vous parler maintenant de la domestication des plantes cultivées, qui est une véritable révolution au niveau planétaire, puisque c'est ce qui va aussi permettre la domestication de l'énergie solaire. Parce que la grande différence entre être une entité ouverte ou une entité fermée, comme l'animal, c'est d'avoir ou de ne pas avoir d'énergie. Le végétal étant ouvert, finalement, rien ne lui manque. Tout lui est, en quelque sorte, donné. L'énergie n'est pas un problème. L'énergie solaire lui est directement accessible et la plante en fait de la biomasse, voilà, transformée en énergie chimique. Elle va matérialiser, condenser cette énergie. Alors l'animal étant replié sur lui-même, tout lui manque, tout lui fait défaut. Et finalement, il n'a aucune possibilité d'entrer en contact avec l'extérieur sans cette énergie qui va lui permettre de développer une vie symbolique, une vie d'interaction, une vie technique aussi, une vie d'action, une vie de performance. Ça va dépendre du végétal. Il va falloir donc se nourrir, c'est essentiellement acquérir, récupérer
tout ce qui était resté à l'extérieur. Ce faisant, la domestication des plantes a fondamentalement été d'amplifier le principe de fructification, permettant aussi d'amplifier la capacité de développer une vie technosymbolique. Et par là, on peut dire que les champs de force formatrices des plantes et des humains sont retrouvés imbriqués, intimement liés, et ceci aussi scelle une sorte de contrat qui passe aussi par la circulation des semences. Et là encore, je vais laisser un petit peu la semence. Ces formes plantes humaines, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a, par la domestication des plantes, créé des formes plantes humaines, ces formes plantes humaines vont avoir aussi un impact sur le climat considérable, puisque à l'échelle continentale, les plantes sont les grands climatiseurs. Ce sont les plantes qui font circuler l'eau, qui font circuler l'air, qui font circuler les flux de chaleur, etc. Et en permettant, la domestication, en permettant d'amplifier la capacité technosymbolique des sociétés humaines, on va aussi avoir là des transformations et des impacts aussi sur le climat. Donc c'est un raccourci très condensé de l'histoire depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui où effectivement le climat est à l'horizon des préoccupations. Et on peut dire que finalement ce qui depuis le néolithique s'est installé comme étant ce qu'on pourrait appeler un agencement commun, plante humain, qui nous paraît être la façon normale dont le monde est organisé. Donc ce grand récit de l'agriculture avec un tiret est peut-être aujourd'hui à un tournant. Donc est-ce qu'on peut considérer de le penser comme étant un simple business, comme l'affirme ce ministre de l'agriculture de je ne sais plus quel pays? Bon, ça c'est une illustration que j'ai prise d'une exposition virtuelle de Magali Dagneau et Cédric Pigot, Devenir graine, qui était l'année dernière au Jeu de Paume. Voilà. Donc, est-ce que on est dans une question de business? Donc, est-ce que l'agriculture est simplement business ou est-ce qu'on est dans une question qui est vraiment ontologique, qui touche à notre être au monde? Si on regarde le crop design, l'amélioration des plantes, le modelage des plantes pour l'agriculture, on peut dire que ce n'est pas simplement changer la forme, le découpage dans l'espace ou l'arrangement de certaines formes végétales, en particulier les plantes que nous consommons ou que nous utilisons pour d'autres usages, mais ça a vraiment des implications qui sont à l'échelle des paysages et on peut dire de toute l'architecture terrestre. Alors là, il y a un grand balayage encore de l'histoire en passant des sociétés, des sociétés pastorales vers la petite paysannerie, une rationalisation de l'agriculture au XVIIIe siècle, et puis l'intensification dans laquelle nous sommes, en allant vers des formes futuristes qui sont déjà expérimentées, des fermes verticales qui pourraient être, qui sont supposées par certains être notre avenir, en tout cas en milieu urbain. Donc on peut se poser la question d'une part, il y a une question de gouvernance sociale de l'amélioration des plantes, puis la question de savoir qu'est-ce qu'on évalue exactement. Est-ce que c'est une évaluation qui est seulement technique, ou bien est-ce qu'on devrait évaluer quelque chose de beaucoup plus global, une évaluation esthétique, une évaluation éthique aussi? Alors, quelle est notre responsabilité par rapport à ces formes plantes humaines, puisque finalement, nos devenirs sont devenus imbriqués avec ceux des plantes que nous avons domestiquées. Donc à nouveau, je voulais dire que la nourriture, donc c'est quand même la façon dont nous pouvons compenser, nous pouvons un petit peu réparer cette grande coupure entre un intérieur et un extérieur. Alors cette grande coupure, on peut se poser la question lorsqu'on voit une publicité comme celle de la société Soylent qui nous dit voilà, demain, on n'a plus besoin de manger. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, cette société vend une poudre alimentaire qui est notamment composée à partir d'extraits végétaux, mais enfin qui nous dit, voilà, il suffit de mettre ça dans un peu d'eau, et puis finalement, on n'a plus besoin de repas, on n'a même pas besoin de faire de coupure de repas, etc. Alors évidemment, il y a un grand saut par rapport à une société, on va dire, l'Antiquité, les cultes de la fertilité de l'ancienne Égypte. On peut dire qu'on est rentré dans une nouvelle métaphysique, de la lumière, puisque quand même, il s'agit bien de récupérer l'énergie de la lumière à travers notre alimentation. Et on peut se demander quel est l'avenir de ces formes plantes humaines. Est-ce qu'on entre dans une ère biosynthétique? Puisque aujourd'hui sont expérimentés, sont recherchés des moyens technologiques pour faire de manière totalement synthétique des systèmes photosynthétiques sans les plantes. Alors pour le moment c'est expérimental, ça ne fonctionne pas de manière très très bonne. Et on pourrait produire des carburants qui permettraient ensuite de cultiver les plantes dans des usines souterraines, par exemple. Alors, est-ce que c'est soutenable? Parce que ça, c'est quand même la question, de se dire, ne serait-ce que d'un point de vue technique, est-ce que c'est soutenable? Est-ce que ça tient la route? Si on fait un bilan énergétique, technique, etc. Donc, on pourrait couvrir les surfaces terrestres de panneaux photovoltaïques, par exemple, qu'on a déjà commencé à faire. Et puis, on installerait les plantes et les humains dans des souterrains ou dans des grandes tours. Alors, même si c'est soutenable techniquement, on pourrait se demander est-ce que quand même, d'un point de vue, on va dire, psychique, émotionnel, etc., est-ce qu'on peut survivre? Est-ce qu'on va pouvoir survivre? Donc la question, elle est comment on pourrait actualiser, on pourrait rendre, comment dire, conscientiser, d'une certaine façon, ce que suppose finalement notre être au monde intimement lié avec celui des plantes, et donc de laisser un petit peu de côté cet aspect très business. Et je pense que là, l'art de l'écologie, l'éco-art, l'écologie, l'esthétique écologique, peut contribuer à nous alerter, à nous ressaisir, à nous interpeller. Donc ici, c'est une illustration d'un arbre à photosynthèse, ce sont les créations de Shigeko Hirakawa, qui ne pose pas vraiment la question que je pose ici, mais bon, qui en tout cas interpelle. Et pour terminer, je voulais dire que la forme des plantes, donc ces formes en action, sont très intimement liées à la politique de l'espace à divers titres. Donc j'ai évoqué au commencement cette géométrie, cette représentation géométrique, cet espace géométrique avec une perspective, avec un point focal unique, qui est une invention de la Renaissance, qui était une invention qui avait une dimension politique, fondamentalement politique, une façon de représenter le pouvoir et l'organisation de la société. Mais à côté de ça, de ce point de vue, elle aurait pu être seulement passagère, mais il se trouve qu'en même temps, elle crée une commensurabilité entre toutes les choses. Et ce faisant, toutes les choses deviennent commodifiables. Donc c'est vraiment un support, comment dire, à la marchandisation, on peut dire, de tout. Et c'est aussi extrêmement puissant, extrêmement performant du point de vue de la construction des formes et du déploiement des formes et d'une prise de pouvoir, on peut dire, globalement, du monde occidental. Alors, on peut se demander si justement, il n'y a pas quand même un petit défaut, parce que comment est-ce qu'on prend en considération les entités ouvertes? Donc on a peut-être laissé de côté ce problème. Et on peut se dire que les entités ouvertes, ce n'est pas seulement les plantes, ça peut être aussi l'eau, ça peut être aussi l'air. Je ne vais pas trop m'étendre sur la diversité, moi je vais rester sur les plantes, mais comment on les prend en considération et puis comment on peut en prendre soin? Donc la façon dont on en prend soin, à partir du moment où on les envisage comme des entités ouvertes, ça va peut-être être un petit peu différent. Donc il y a peut-être beaucoup de choses à repenser si on veut aborder maintenant la question d'une éthique pour les plantes. Il va falloir penser à avoir des modèles vraiment radicalement différents de ceux qu'on a pour développer une éthique animale ou même une éthique humaine ou animale. Voilà, pour moi, ça représente vraiment un changement de paradigme qui demande à ce que l'on prenne, qu'on acquiert une certaine conscience des expériences non euclidiennes que nous avons avec les plantes, puisque nécessairement, elles nous inscrivent dans une expérience d'un autre espace. Simplement, il y a une question peut-être d'éducation, de sensibilisation, eh bien, il y a tout à inventer. Voilà. Donc c'est peut-être la perspective de l'anthropocène, c'est de devenir post-euclidien. Je vous remercie. Plus.
juste me permettre, j'imagine, après la densité de ces exposés, la densité, la qualité de ces exposés, l'ensemble des points d'articulation qu'on voit s'installer entre eux, hein, j'imagine que vous avez à la fois des questions à poser individuellement à chacun des intervenants et aussi peut-être plus transversalement. Je vous passe le micro. Hervé.
D'abord, merci pour les quatre interventions qui commencent avec le milieu et qui se terminent avec les plantes. Et ma question va être au départ un petit peu précise, mais en fait assez transversale. Quand on parle de milieu, au sens, je suis géographe, hein, donc au sens tel qu'il a été décrit par le premier intervenant, on pense non pas un entourage, mais on pense quelque chose avec quoi on est toujours en interaction, interactions qui sont rarement modélisables. Donc à partir du moment où dans le milieu on extrait une catégorie d'objets et on leur donne un statut quelconque, que ce soit par un nom ou que ce soit par un fonctionnement, on fait une partition en quelque sorte et on loupe une partie des interactions. Alors, techniquement parlant, ma première question s'adresse à la dernière intervenante. C'est très intéressant de faire une différence entre les plantes et les animaux, mais il y a tout un milieu qui est intermédiaire entre les deux. Des objets qui sont à la fois plantes et animaux s'appellent les coraux. Ils sont absolument fondamentaux pour la régulation climatique et ils sont l'objet d'un certain nombre d'interrogations. Si ce que vous avez décrit, ça marche très bien si on prend d'un côté un chêne et de l'autre côté un éléphant, ça marche, ou un ver de terre, ça marche du feu de Dieu. Par contre, si on prend des plantes carnivores d'un côté et si on prend des anémones de mer de l'autre, l'opposition est moins claire. Et si on prend des coraux, ça marche plus. Donc, ça repose la question générale du milieu, tel qu'il a été défini par la première intervention, et ça repose une deuxième question, à savoir si on fonctionne avec des bulles, comme Sloterdijk nous le demande, on construit le périmètre de notre bulle où? Et dans un de ces, je crois que c'est dans le deuxième tome dans Écume, il dit que l'idée des bulles lui est venue des vols quand il y avait des vols en satellite et ainsi de suite, donc c'est un peu anthropocentré quand même à l'origine, au départ. La bulle de connaissance, elle va où? Autrement dit, la question fondamentale, c'est un, on a un milieu, deux, on fait des partitions à l'intérieur, on met des catégories, et quand on fait des catégories, on loupe peut-être éventuellement, point d'interrogation, des interactions, interfingering, I would say in English, entre ces différents objets. Donc j'aimerais que la question soit abordée dans toute cette difficulté. J'entends évidemment pas une réponse, hein, mais au moins qu'on se pose la question.
Do you mind if I answer in English to the Sloterdijk? So I think, no, it's interesting in a way, but if you read his, I don't know if it's been translated into French, Du musst dein Leben ändern. You must change your life. I think it's English. It's translated. So I think the interesting part is like the very, very end. I think he does something like a co-immunist manifesto, where he says, well, the problem is that we basically, exactly what you're saying, in a way, you make the kind of the border or kind of your bubble kind of on a too tight a space almost, right? So he says, oh, we should kind of almost overcome the usual solidarities that we kind of brought up with national solidarities or kind of tribal solidarities and try to kind of think in very much in a global way. So so the limit of your bubble then is the planet then. I mean, this is how far he stretches it, right? And then the kind of, the, as you say, the reordering of the world, what's kind of a partage of the kind of the world we're in, then kind of you start reconfiguring it, I think. And what I find particularly interesting with Sloterdijk is that with him you can kind of start, he doesn't like politically, of course, there is like, I wouldn't always agree with him kind of on a very explicit political level when he writes feuilleton or, you know, newspapers, but I think from what he proposes in spheres and then Du musst dein Leben ändern, I think there is a huge potential to just kind of almost give it a certain spin in a direction that can be very interesting for, you know, this whole new materials kind of environmental thinking. So this would be my kind of position on that. I'm not sure if I answered your question, but...
Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris quelle était la question que vous me posiez. S'il y avait une question pour moi spécifiquement, parce qu'effectivement, il y a une diversité de plantes et d'animaux. Donc, on va toujours trouver... Ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est qu'effectivement, les frontières sont floues. Mais ça, c'est flou dans n'importe... Enfin, je veux dire, la catégorisation... ne suppose pas qu'il n'y a pas de forme intermédiaire. Il y a toujours des formes intermédiaires. Dans le monde naturel, on trouvera toujours des formes intermédiaires. Donc, en fait, c'est quand même aussi un instrument pour penser, donc d'essayer de penser les grandes différences. Bon, ceci étant dit, les formes, le fait de penser une forme ouverte, hein, c'est déjà dire que le milieu, peut-être il faut repenser aussi même le concept de milieu. Parce que qu'est-ce que c'est quand on est une plante, finalement, je veux dire, elle va pas, enfin, si elle pouvait penser, elle va pas penser qu'elle a un milieu, elle est dedans, elle est imprégnée, elle n'est pas séparée. Alors, le milieu, ça suppose déjà qu'on se sent quand même une certaine séparation. Par rapport qu'il y a une certaine coupure. Et voilà.
C'est ça l'objet. Vous avez cité Deleuze et Guattari au début. Il y a quelque chose d'assez passionnant sur une certaine guêpe et une certaine orchidée. Donc si on prend comme au milieu de tout ce qui est possible, si on prend deux objets qui sont opposés, on risque d'aller dans des dualismes. Si au contraire on prend deux objets qui sont hybrides, à savoir les objets qui sont à la fois plantes et animales, on est plus dans la notion de milieu, telle qu'au moins elle a été définie en première approche, à savoir comme quelque chose qui part à l'intérieur et à l'extérieur, mais quelque chose avant tout des interrelations. C'est uniquement ça que sur lequel je vous interroge.
Oui, oui, non, mais les coraux, et, voilà, très, très bon exemple.
Je prends le micro pour ajouter quelque chose.
Il me semble la question que vous posez, qui est une super question, une super question difficile, c'est la question de la difficulté de la modélisation, en fait, d'un milieu. C'est-à-dire que ce qui me semble intéressant avec la notion de milieu par rapport à la notion d'environnement, c'est qu'un milieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ça va être quelque chose au contraire qui va être configuré à partir d'une multiplicité de relations. Donc c'est-à-dire on peut focaliser sur ces relations, mais ces relations, on ne peut que les approcher de manière inductive ou, je donne un exemple, ce qui est intéressant aussi avec la notion de milieu, c'est que on peut s'intéresser à différents êtres. Il n'y a pas simplement les vivants qui ont un milieu. On peut dire qu'une graine a un milieu. Alors qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une certaine température, une certaine plage de température qui lui permet de garantir ou de garder sa fertilité. Ça va être une certaine humidité. Enfin, tous ces traits relationnels qui configurent ce qu'est le milieu. Alors après, justement, la question de savoir si on peut totaliser ou... Enfin, il me semble que la question du milieu nous engage sur une veine qui est plus pragmatique ou empirique, qui fait que il faut chercher, voir qu'est-ce qui fait milieu et qu'est-ce que... Pas s'en tenir à une forme close, mais voir que cette forme close n'existe qu'en interrelation avec des choses, mais qui sont difficilement clôturables, si c'était ça un peu la question.
Oui, merci pour ces exposés. Tout d'abord, je voudrais d'abord remercier Sylvie Poutou pour mettre le doigt avec son intervention sur quelque chose qui était très important et au cœur de ce colloque, à savoir le fait que la notion de forme intéresse aussi bien les biologistes, les physiciens que les philosophes et un certain nombre de disciplines. Du coup, je renvoie par exemple à un ouvrage qui a été publié en 1994 et qui s'appelle « Les formes dans différents... » Je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin, « Les formes et les disciplines », quelque chose autour de ça, qui est un collectif. Il y a des articles de Virilio aussi bien que de biologistes. Donc ça me semble très important, puisque en ce qui concerne les études environnementales, une des difficultés auxquelles nous nous attaquons aujourd'hui, c'est justement cette question de l'interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité ou de, je ne sais pas comment l'appeler, pour traiter des objets. Donc la notion de forme nous permet permet à plusieurs disciplines de travailler un même objet avec une entrée conceptuelle ou notionnelle qui peut avoir à voir. Et ça me semble être une des pistes fructueuses de la notion de forme. Alors, pour revenir après sur la question entre environnement et milieu, je ne partage pas, je sais que l'environnement a beaucoup été rejeté par les gens qui font l'apologie de la notion du milieu, que j'ai utilisé moi-même, en disant ça, l'environnement, c'est plus statique, c'est plus objectivé. Je trouve que c'est un débat qui maintenant a lieu depuis plus d'une vingtaine d'années et je ne suis pas sûre qu'il soit extrêmement fécond, enfin ce qu'il nous amène à penser soit véritablement quelque chose de nouveau par rapport à ce débat-là. Donc ça c'est une question sur cette approche notionnelle. Et puis, y a une chose aussi sur laquelle je voulais revenir, en réponse, en écho plutôt aux remarques d'Hervé, c'est qu'il me semble que la notion d'interrelation, et là je fais écho à la fois aux propos d'Hervé Regnault, mais aussi à vos propos, puisque je suis inscrite dans le groupe New Materialism, donc interrelation suppose toujours qu'il y ait deux objets qui soient séparés et qu'on définisse par la somme de leurs relations. Et en soi, déjà, ça suppose l'objet et le sujet, ou l'objet et l'objet, ou je ne sais pas très bien comment penser ça. Et ça aussi, c'est un problème. Du coup, c'est vrai qu'il y a tout un courant de pensée auquel vous avez fait référence, qui essaye de reformuler, à la fois d'un point de vue philosophique, mais aussi scientifique, cette question-là. Est-ce qu'on peut penser en dehors de la relation? Comment penser la chose avec les notions d'agentivité, d'intra-agentivité? Je fais référence aux travaux de la physicienne et philosophe Karen Barad en 2012. Donc, bon, il y a là tout un cœur de complexité, et c'est vrai qu'avec ce colloque, tout ce qu'on peut prétendre, c'est les effleurer, à vrai dire.
Avec d'autres questions?
J'ai hésité parce que j'ai l'impression qu'elle est peut-être hors sujet, mais elle me tient à cœur, et je pense qu'elle peut-être, elle n'est pas si hors sujet que ça. Moi, j'avais envie de vous questionner sur quelle différence vous faites entre un site et un lieu. Parce que pour moi, j'ai cette impression que le lieu est beaucoup plus subjectif que le site. Mais au regard de tout ce que vous avez exposé là, moi, là, je parle du coup d'une expérience de l'espace physique. Alors peut-être que les géographes qui sont dans la salle vont pouvoir répondre en tout cas apporter des éléments de réponse. Mais j'avais l'impression, il me semble que dans cette histoire de milieu et d'environnement, on peut aussi aborder la question très pragmatiquement de ce qu'est cette expérience physique qu'on a d'un endroit, enfin je ne sais pas comment appeler ça.
Juste pour essayer de dire quelque chose. Je pense que c'est une question intéressante, mais moi, c'est des termes que je n'ai pas utilisés. Du coup, je ne sais pas exactement quelles sont les différences en fait, intrinsèques entre site et lieu. Je ne connais pas bien en fait, ce sémantiquement, où est-ce que, vers où on va. C'est-à-dire, je ne sais pas, en fait, il faudrait m'en dire plus.
Non, mais ça peut-être que c'est la question de la façon dont on habite aussi. Enfin, vous avez plus ou moins abordé ces questions, surtout dans votre exposé autour de l'expérience du dossier expérimental. Il y a quand même ces questions de la façon dont on habite qui sous-tend, il me semble, ce colloque.
Alors, c'est vrai, juste pour ajouter quelque chose. J'ai l'impression, du coup, que la notion de milieu, telle qu'on peut la trouver, par exemple, chez Simondon, elle va déplacer un peu cette question d'habitation, comme on pouvait la penser chez Heidegger, par exemple. Là, il y a une question du lieu chez Heidegger qui est importante. Dans le sens où la notion de milieu est plus la spécificité de l'humain, mais quelque part, une éolienne, un moteur, une graine, a aussi un milieu. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour un objet technique d'habiter son milieu ? Alors peut-être que ça veut dire quelque chose, mais certainement ça déplace énormément le sens d'habiter. Là, il faudrait voir.
Mais les designers parlent beaucoup de la façon où les architectes, ils sont quand même dans le cœur de comment on habite.
Oui.
Enfin, le système d'objets dont vous avez parlé tout à l'heure, ça définit un système de signes qui nous permet de circuler et de bouger, peut-être.
Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que si cette question n'a pas d'effet de résonance, qui est d'ailleurs une manière presque géographique de faire la différence entre la notion de site, l'endroit où on se tient, et la notion de lieu, qui est fondamentalement relationnelle et que Augustin Berque a très bien défini de ce point de vue-là. Peut-être que donc l'effet de résonance étant insuffisant pour déclencher quelque chose de l'ordre de l'échange, alors le repas sera un bon moment pour le faire. Mais alors, comme je ne sais pas quoi vous dire sur le repas, je passe la parole à Agnès Levy, qui sait bien plus que vous.
C'est super bien amené. Attendez. Deux petites secondes.
Posez votre question. Oui, allez-y.
D'accord, ok. Je pense que le débat, il s'oriente beaucoup sur quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture et de la fermeture au milieu, que ce soit avec Vincent Baudois ou Madame Poutot. Quelque part, on voit qu'il y a des plantes qui sont ouvertes sur le milieu et puis des animaux, des hommes qui seraient plus repliés. Et pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ce qui permet à l'homme et aux animaux de s'ouvrir à leur milieu, c'est leur capacité à penser et leur capacité à agir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire dans cette direction, dans ces deux directions. En quelque sorte, imaginer un design de l'action pour le fait de bouger, pour inventer de nouvelles formes liées à l'environnement, et un design de la pensée. Hein. C'est par la pensée qu'on va se sentir être particulièrement, qu'on va se sentir particulièrement lié à son environnement. Hein, je pense à des pensées, par exemple, orientales. Je pense notamment à un auteur qui s'appelle Fukuoka, qui est à l'origine en partie de la permaculture, et qui explique bien ça, qu'il a il faut une certaine ouverture à l'environnement par la pensée pour faire partie complètement de cet environnement, un petit peu comme le loup qui ferait partie de son environnement ou pas. Est-ce qu'il a envie de faire partie de cet environnement? Est-ce qu'il a conscience de faire partie de son environnement ou pas? Nous, en tant qu'être humain, on peut faire cette démarche-là par la pensée, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine et dans l'action. Il y a aussi tout un design de l'action à concevoir, et ça existe déjà, il me semble, en partie dans le paysagisme ou l'architecture. Et je pense notamment à des architectes comme Devin et Dalnoki, qui ont beaucoup agi dans les années 90 et qui cherchaient à repérer tout ce qui bougeait dans la nature, dans l'environnement, et à utiliser ce qui bougeait dans la nature et l'environnement pour créer des nouvelles formes. Donc, quelque part, une sorte de design de l'action. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, voilà des tas de sujets de réflexion pour la journée et demie que nous avons.